Tite, chapitre 3, 1359. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute bonne œuvre, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi, après un premier puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, empresse-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai décidé de passer l'hiver. Aide avec empressement Zénas, l'expert de la loi, et Apollos dans leur voyage, en faisant en sorte qu'il ne leur manque rien. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de belles œuvres pour subvenir aux besoins les plus importants, afin de ne pas rester sans fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. De ton côté, salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Amen.
Cette lettre est adressée à Tite de la part de l'apôtre Paul. Il est Tite sur l'île de Crète. Et potentiellement, ce n'est pas très compliqué ce soir. Cette lettre est adressée à un pasteur. L'apôtre Paul écrit donc à un pasteur. Je suis pasteur, nous sommes réunis en tant qu'église. Et il écrit, rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêt pour toute bonne œuvre, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. C'est fait. Vous voulez que je relise une troisième fois? On pourrait s'arrêter là. Vous auriez la satisfaction d'avoir un des messages les plus courts de la RDS. Pourquoi est-ce qu'on ne s'arrêterait pas là? Parce que l'apôtre Paul ne s'arrête pas là. Et après ces recommandations, il va plus loin. Mais si on s'arrêtait là, dans la peau de quelqu'un qui ce soir nous rend visite et qui ne se décrirait pas comme chrétien, qu'est-ce qu'il penserait de ce qu'on vient de lire? Ah, C'est exactement ce que j'imaginais. Il y a quelqu'un qui se croit meilleur, qui va se mettre devant et qui va nous dire, nous recommander ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et on va repartir en disant, voilà, c'est ça qu'il faut appliquer. Ou alors vous, les habitués de la RDS, et si vous êtes chrétien ce soir, vous vous dites, ok, très bien, mais où sont les motivations pour le vivre, le mettre en pratique? Et si on est honnête avec nous-mêmes, où sont les ressources pour vivre ces recommandations? L'apôtre Paul, heureusement, ne s'arrête pas là. Et dans le verset 3, il se lance dans un résumé à la fois précis et concis au sujet de l'Évangile. Et il termine ce résumé avec ce qui ressemble au verset clé de ce passage, verset 8. Cette parole est certaine. Je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Un constat tout au long de cette lettre, c'est que la doctrine est indissociable des devoirs. L'un ne va pas sans l'autre, et inversement, on ne peut pas avoir de doctrine sans qu'il y ait des œuvres derrière, des devoirs à mettre en pratique. Et inversement, on ne peut pas avoir ces devoirs sans la doctrine. Et en étudiant le chapitre 2, on a déjà vu que la manière de vivre des chrétiens doit donner envie de découvrir l'Évangile. Il doit dire, par sa manière de vivre, les chrétiens, la beauté de l'Évangile. Et ici encore, tous les humains doivent voir combien l'Évangile est bon et bienfaisant. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Maintenant, les questions de tout à l'heure demeurent. Est-ce que c'est simplement l'enseignement moralisateur d'un Paul, d'un Tite ou des pasteurs qui se prennent pour des gens meilleurs et qui disent aux autres ce qu'ils doivent faire? Et quelles sont les motivations qu'on peut avoir pour vivre ces recommandations, ces devoirs? Est-ce qu'on a les ressources suffisantes pour le vivre? On pourrait se poser la question. Ce soir, on va voir ce texte en deux temps. Quel devoir envers tous? On prendra le début et la fin. Et ensuite, quelle doctrine comme fondement? Versets 3 à 11. Quel devoir envers tous? On commence avec des paroles qui concernent les autorités. Et on se met quelques instants dans la peau de l'apôtre Paul. Il est juif de naissance. Il croit que Jésus est le Messie, le roi des rois, le roi par excellence. Comment est-ce qu'il voit le rôle des croyants dans l'espace public? Est-ce qu'il milite en faveur, par exemple, d'une théocratie comme au temps de David, l'apôtre Paul? Ou alors est-ce qu'il milite en faveur d'un christianisme qui va influencer la politique et en fait qui va prendre la place de l'Empire romain directement par une politique imposée par le christianisme? Dans la même ligne que Jésus, l'apôtre Paul invite ici les croyants à une soumission aux autorités qui ne va pas de soi. Après tout, est-ce que ce n'est pas l'Empire romain qui va persécuter les chrétiens, à commencer par lui? Est-ce que ce n'est pas l'Empire romain qui encourage le culte de l'empereur et le culte d'idoles, des idoles qu'il dénonce? Sans renoncer à ses convictions, l'apôtre Paul estime qu'il y a une place légitime pour ses autorités, ce pouvoir. Certes, dans des cas extrêmes, il sera légitime de leur désobéir. On pense à la déclaration des apôtres, quand le Sanhédrin leur demande d'arrêter de parler de Jésus. Qu'est-ce qu'ils répondent? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais en disant cela, c'est leur vie qu'ils sont prêts à risquer, pas menacer celle des autorités en place, comme si nous allons vous supprimer. Ma question, c'est comment est-ce qu'on va démontrer la beauté de l'Évangile aux autorités, aux voisins, aux gens qui nous observent? Et une expression qui revient de manière récurrente dans toutes les épîtres pastorales, 13 fois en tout, et ici dans le chapitre, on le voit au verset 1, verset 5, verset 8, verset 14, ce sont les belles œuvres. Les belles œuvres, les œuvres bonnes dans votre version. Quand il s'agit de dire la beauté, la pertinence de l'Évangile, eh bien, ce sont les belles œuvres qu'il faut vivre. À l'esprit, il faut avoir le constat que l'apôtre Paul a fait concernant les faux docteurs, les faux enseignants dans le chapitre 1. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Eh bien, il faudra exactement l'inverse pour les chrétiens. S'ils prétendent connaître Dieu, il va falloir que ça se voit dans leurs œuvres. Sinon, le message n'a aucun crédit. Et pour nous mettre un peu en situation, on va imaginer ce que ceux qui nous observent pourraient se dire. Dans le verset 1, il est question du rapport aux autorités. Et pour commencer, imaginons trois conversations que les voisins de l'église, voisins de la copropriété ou dans cette rue, pourraient avoir au sujet de nous. Conversation numéro 1. T'as vu l'article dans le Parisien l'autre jour sur l'église d'à côté? C'est quand même fou. Hein. Une fraude fiscale pour une bonne partie des membres. Ces croyants déclaraient des dons fictifs pour payer moins d'impôts. Là, ils sortent tout sourire de l'église, on comprend mieux pourquoi. Hein. Sujet de conversation numéro 2. Pour les chrétiens d'à côté, tout ce qui compte, c'est leur rassemblement du dimanche. Ça, c'est sacré. Ils peuvent garer leur voiture n'importe comment, ils peuvent bousculer les gens à la sortie du métro, crier sur quelqu'un dans la rue, parler fort dans la cour en sortant tard le soir. On l'a tous fait. Hein. Tout ce qui compte pour eux, c'est leur rencontre, leur chant. Sujet de conversation numéro 3. Je ne suis pas croyant, Il y a certaines choses avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord dans ce qu'ils croient, mais je dois reconnaître qu'ils sont respectueux du voisinage. Je vois dans leur attitude un respect vis-à-vis des lois, et une bonne relation, semble-t-il, avec les autorités. Et par certaines actions, comme la banque alimentaire ou d'autres, j'ai l'impression qu'ils veulent prendre de soin des gens au-delà de simplement leur propre communauté. Quelle conversation est-ce que les voisins de cette église ont au sujet de notre église? Qu'est-ce qu'ils disent de nous? L'apôtre Paul ne parle pas seulement d'une obéissance aux lois. Dans le verset 2, il est question du rapport à tous les humains. Et là, on va plutôt se mettre dans la peau des personnes dans notre voisinage, chacun d'entre nous ici, avec les voisins qu'il a, qu'il ou elle a. Pourquoi est-ce que vous êtes connu dans le voisinage? Pourquoi est-ce que je suis connu dans le voisinage? Est-ce que je suis connu pour parler derrière le dos des autres, être friand de ce genre de conversation? Ou au contraire, est-ce que je suis connu pour quelqu'un qui n'a pas envie d'être à l'écoute des derniers cancans? Est-ce que je suis connu pour m'emporter sur l'un ou l'autre sujet? Alors là, sur ce sujet-là, il ne faut pas le chercher, hein, parce que là, est-ce qu'on est connu pour s'emporter sur certains sujets, ou est-ce qu'on est connu pour être pacifique, conciliant? Est-ce que je suis connu pour être le prétentieux de service? Ah, alors lui, il se prend de haut, il se prend au sérieux. Ou au contraire, comme quelqu'un qui est conscient de ses failles, qui est prêt à les reconnaître, qui est humble et doux face aux autres. Et c'est pas seulement pour les autorités, pas seulement pour les voisins. L'apôtre Paul reparle des œuvres belles à la fin de sa lettre, et faute de temps, on ne va pas s'attarder sur ces derniers versets. Mais on peut dire qu'il y a des belles œuvres qui se voient aussi dans la manière de prendre soin des frères et sœurs engagés dans la mission. Dans les recommandations de Paul pour les uns et les autres, on a entendu des noms. Il invite là aussi à de belles œuvres, à porter du fruit. Au verset 14, il est question d'inviter les croyants à prendre part à leurs besoins de ses collaborateurs. Et en vue, il y a probablement l'hospitalité, mais probablement plus que cela, subvenir à leurs besoins, c'est aussi les aider financièrement, concrètement. Et c'est sûr, dans notre Église, on a des progrès à faire dans la communication des personnes que cette Église soutient dans l'œuvre missionnaire. On pense à Benjamin Short qui nous a visités, qui travaille en Côte d'Ivoire. On pense à Judica Elana Marquez au Tchad, à Jean-Pierre Mihailovitch pour Sport et Foi, et d'autres encore. La famille de Neuchâtel qui va venir le 17 mai. On a besoin de davantage parler de leur œuvre et de comment nous pouvons les aider. Mais ces œuvres belles, elles doivent se voir aussi là, dans ses préoccupations pour la mission d'un point de vue plus large. Et face à tous ces devoirs, qu'est-ce qu'on ressent? Ben, naturellement, on ressent le sentiment d'incapacité, le manque de motivation, le manque de ressources, de détermination à vivre ces belles œuvres. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais on a besoin de motivation, d'une motivation plus grande. Alors, quelle doctrine comme fondement? Et c'est là les versets 3 à 11. En entendant les recommandations de Paul à Tite, on pourrait avoir le sentiment que Paul prend les chrétiens de Crète, de haut. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? On écoute au verset 3. « Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté, dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. » Vous avez entendu la deuxième personne du pluriel? Mais quelle est votre réaction en lisant ça? L'apôtre Paul, hautain, prétentieux. L'apôtre Paul vivait sous la loi juive. Il était pharisien, enseigné par Gamaliel, connu pour une vie droite. Et c'est comme ça qu'il se présente. Il s'attribue avec Tite toute cette liste de défauts, comme s'il amplifiait ce qu'il demande de ne pas faire aux autres. Pour parler de notre passé, est-ce qu'on serait aussi lucide, est-ce qu'on serait aussi franc, aussi humble que cela pour décrire notre passé? Est-ce que vous auriez parlé, est-ce que j'aurais parlé de mon passé de cette façon-là? J'imagine qu'on serait tous d'accord pour dire qu'on est imparfait, qu'on a besoin de progresser, mais il va beaucoup plus loin, lui. Il est en train, par 8 qualificatifs, de dire que son passé est exactement l'inverse de ce qu'il demande aux chrétiens de Crète. Il a cette lucidité-là, cette humilité-là. Rebelle plutôt que soumis aux autorités. Esclave de ses passions plutôt que prêt à faire le bien. Vivant dans la méchanceté, l'envie plutôt que pacifique et conciliant. Odieux et hostile plutôt qu'humble et doux. Si l'apôtre Paul est sincère quand il parle de lui, et on peut le penser, comment est-ce qu'un changement à 180 degrés peut s'envisager? Comment est-ce qu'un changement complet, si c'est bien son passé, peut s'envisager? Dans le chapitre 2, c'est la grâce qui a été mise en avant. Ici, c'est autre chose qui est liée, mais c'est autre chose. Si on était simplement à la recherche d'amélioration dans notre vie, de conseils, eh bien, on ferait appel justement à des conseils, à un coaching ou à un cours intensif pour mieux vivre. Mais compte tenu du changement envisagé, il faut quelque chose de beaucoup plus fort. Et dans les versets 4 à 7, qui sont une seule phrase en grec, le pivot de cette phrase, le verbe, c'est sauver. On a besoin d'être sauvé, rien de moins que ça. Mais pour encourager un tel changement, un tel nouveau comportement chez les Crétois, Paul parle en termes de salut. Il présente cette doctrine de salut de manière dense et riche, au point où certains pensent qu'il s'agissait d'un credo, une déclaration de foi. Et on va se poser quelques questions où on trouve ici, en gros, les réponses à quelques questions concernant le salut. Sur quelle base est-on sauvé? Comment est-on sauvé? Par qui est-on sauvé? En vue de quoi est-on sauvé? Et peut-être si vous êtes chrétien ce soir, vous dites, mais je connais toutes les réponses à ces questions. Je connais très bien les réponses à ces questions. Et je vous suggère que le credo, il a quelques surprises à nous réserver. Et ensuite, le salut, c'est un peu comme un tissu foncé auquel s'attachent toutes sortes de poussières, de fausses idées pour ce qui est du salut. Un peu comme imaginez un vêtement que vous avez, un vêtement sombre, et constamment il y a des cheveux qui se collent, mesdames vous savez ce que c'est, ou des morceaux de laine, de la poussière. Comment est-ce que vous allez retirer tout ça? Alors c'est pas téléachat ce soir, hein, mais je vous demanderai, c'est juste une illustration, l'image suivante, on a ce qu'on appelle un rouleau adhésif qui permet d'enlever tout ce qui s'attache à un tissu. Et même prenez un peu ce credo comme ce rouleau adhésif qui va en gros enlever tout ce qui s'attache facilement au salut. On rattache toutes sortes d'idées au salut et on a besoin, par ce genre de credo, d'enlever tout ce qui ne devrait pas être là. On commence avec la première question. Sur quelle base est-on sauvé? On sera peut-être à même de dire avec l'apôtre de Paul au verset 5 que ce n'est pas à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, et on aurait raison. Mais il y a parfois des expressions qu'on utilise dans nos prières qui peuvent laisser penser autre chose. Je pense à une expression que j'ai entendue dernièrement dans une prière, « l'homme selon le cœur de Dieu ». L'expression, elle renvoie à David dans le livre de Samuel, David qui est devenu le roi d'Israël. Et comment est-ce qu'on entend cette expression? Ben souvent, on l'entend pour dire que Dieu a vu en David quelque chose de pur, de beau, et c'est pourquoi il l'a choisi pour devenir roi. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est bien ce que Dieu voulait communiquer? Ben d'une part, il faut probablement lire que c'est plutôt selon le cœur de Dieu, selon la décision de Dieu, selon le choix de Dieu, son cœur à lui. Mais d'autre part, c'est laisser entendre que, précisément, en David, il y a un potentiel, il y a quelque chose de magnifique. Bon, ça, c'est pas la Bible, mais dans Disney, Aladdin de Disney, il y a un cœur de diamant chez Aladdin, un cœur brut, un diamant d'innocence. Comme si en nous, il y avait quelque chose de magnifique, malgré les apparences de mal à l'extérieur. Sur quelle base est-on sauvé? Ce salut est fondé exclusivement sur la bonté de Dieu. C'est ça qui marque le changement, et le mai est là pour en témoigner. Ensuite, comment est-on sauvé? Comment est-ce que vous auriez envie de répondre? Peut-être en citant Éphésiens 2, verset 8, c'est par la foi. C'est ça que vous avez envie de répondre? Mauvaise réponse. Parce que dans ce credo, vous pouvez le chercher, le terme foi ou le terme croire, on n'en trouve pas la trace. Attendez, vous allez lui dire, mais l'apôtre Paul, c'est pas celui qui revient constamment sur le salut par la foi, à la différence d'un salut par les œuvres, dans sa lettre aux Éphésiens, aux Galates, ou aux Éphésiens. La foi n'est pas présentée ici. Comme si l'apôtre Paul voulait même enlever la moindre suggestion que nous participons au salut. Même la foi n'est pas mentionnée. Tout l'accent est mis sur l'œuvre de Dieu pour le comment du salut. Et il décrit trois expressions pour décrire ce salut. D'abord, la nouvelle naissance au verset 5. Une nouvelle naissance qui met un accent sur l'aspect radical, un nouveau départ, une nouvelle vie. Le bain qui précède est probablement une allusion au baptême. Il parle ensuite du salut comme d'un renouvellement, un renouvellement du Saint-Esprit, quelque chose qui vient de l'intérieur, qui change à l'intérieur. Et il parle ensuite, pour le comment du salut, d'être déclaré juste, la justification, le fait d'être déclaré juste devant Dieu. Le salut est à la fois extérieur, la justification devant Dieu, opérée par Jésus, mais aussi intérieur, parce qu'il faut quelque chose de radical à l'intérieur, le renouvellement du Saint-Esprit. Il faut quelque chose d'aussi radical qu'une nouvelle naissance. Et ça, c'est déjà une partie de la réponse à nos questions. Est-ce que ça va être possible pour lui de faire en sorte que nous puissions être capables de bonnes œuvres? Mais on doit dire plus, par qui est-on sauvé? Et vous avez envie de répondre quoi? Maintenant que vous savez qu'il y a des pièges, vous avez peut-être un peu... Vous avez envie de répondre par Jésus, j'imagine? Bonne réponse? Mais pas complète. Parce que l'apôtre Paul ne se contente pas de parler de Jésus, il dit que toute la Trinité est engagée dans le salut. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu le Père est présenté comme sauveur, le Fils est bien l'agent de ce salut. Mais l'Esprit-Saint est aussi mentionné pour opérer ce renouvellement à l'intérieur. Le Dieu trinitaire est engagé dans notre salut. Et ça aussi, ça doit dire les ressources que Dieu met à notre disposition. Toute la Trinité est engagée pour faire de nous des personnes différentes. Donc, en vue de quoi est-on sauvé? Une des choses qui s'attache régulièrement au salut, c'est la perception de notre vie présente. Si on a expérimenté le salut de Dieu, est-ce qu'on ne devrait pas goûter à une vie plus préservée? Est-ce que le fait d'être sauvé ne devrait pas me permettre d'avoir le travail idéal, le conjoint idéal, la famille idéale, de sorte que là, les conditions seront réunies pour que je puisse vivre ces belles œuvres? Est-ce qu'il nous faudrait une vie préservée? Mais le salut dont il est question ici parle d'un héritage futur, un héritage futur. Nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Il y a bien un héritage en vue. Un héritage immérité, mais un héritage futur. Il y a pas mal de fausses conceptions qui s'attachent au salut et dont on a besoin d'être détaché par ce genre de credo en revenant au salut. Parce qu'il nous faut, en fin de compte, pouvoir vivre ces belles œuvres. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Si le credo ici sur le salut est un peu comme un rouleau adhésif, l'apôtre Paul est réaliste sur le fait qu'il y aura toutes sortes d'idées qui vont se propager, d'autres doctrines qui n'ont pas le même effet. Il revient sur les faux enseignants mentionnés au premier chapitre et on le voit ici. Qu'est-ce qui caractérise ces fausses doctrines, ces mauvais enseignements? La première caractéristique, c'est quelles sont ces doctrines spéculatives. Il est question ici de généalogie, de conflits relatifs à la loi. Les commentateurs ont de la peine à mettre le doigt exactement sur quelles étaient ces doctrines. Mais si on devait réfléchir à nous aujourd'hui, quelles seraient les doctrines spéculatives que l'on pourrait mettre en avant dans nos conversations? Par exemple, on pourrait penser à des expériences de mort imminente. Que faire d'un témoignage comme celui-là, une expérience de mort imminente, quelqu'un qui raconterait cela? Possible que ce soit passé. Mais est-ce qu'on irait plus loin jusqu'à décrire la réalité du ciel sur la base de ces expériences? Pareil avec les rêves. Dieu peut se révéler par des rêves. Mais est-ce qu'on va aller plus loin jusqu'à spéculer sur des doctrines, sur la base de ces rêves, de vouloir entrer dans des conversations qui doivent édifier sur la base des rêves qu'on a? C'est spéculatif. Une autre facette de ces faux enseignements que Tite doit éviter, c'est qu'elles font naître des disputes. Elles sont source de division, de controverses. Alors parfois les controverses, elles sont nécessaires. Là, Jésus a été très controversé dans son ministère. Il a eu des controverses avec les religieux de son temps. Mais la nature de celles-ci, c'est qu'elles sont sans valeur et nuisibles. Elles sont inutiles en gros, et elles sont nuisibles. Et dans la peau de Tite, comment réagir à ce genre de controverse où en fait ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'utilité, de pertinence pour les croyants? Est-ce qu'il devrait, pour la xième fois par exemple, s'engager dans la même controverse, dans un sujet secondaire avec quelqu'un, spéculatif? Est-ce qu'il doit entrer dans cette conversation encore une fois et prendre le temps, et des heures, et des heures, et des entretiens pour parler de cette doctrine-là? Ou à l'inverse, est-ce qu'il doit tomber sur la personne dès qu'on entend quelque chose de travers, dès qu'on entend quelque chose de spéculatif? Tite est là, il tombe sur cette personne pour dire plus jamais ça, toute l'artillerie lourde, plus un mot sur le sujet, compris? Eh bien, au verset 10, on voit les traces d'étapes, il est question d'avertir, une manière de dire qu'il faut laisser l'occasion à cette personne de réfléchir, de voir une autre perspective sur ces spéculations, ces doctrines. Mais cet avertissement, c'est aussi l'occasion de dire qu'il ne faut pas continuellement s'engager dans ces mêmes doctrines qui seraient spéculatives, qui seraient inutiles et qui mènent à la division. Tout au long de cette lettre, la doctrine, elle est indissociable des devoirs. Les devoirs sont nécessaires pour dire la beauté de la doctrine. Et la doctrine, elle est nécessaire pour bien fonder ces devoirs, pour nous équiper, pour les vivre. Et la doctrine présentée ici, pour nos devoirs, envers tous, c'est le salut. Le salut est exclusivement basé sur la bonté de Dieu. Le salut est une nouvelle naissance, un renouvellement intérieur, une justification devant Dieu. Le salut est l'œuvre de toute la Trinité divine. Le salut nous place dans l'attente d'un héritage à venir. Alors lançons-nous dans ces œuvres bonnes, de sorte que nous puissions dire la beauté de l'Évangile. Amen.